Europe 1.
Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Olivier Benkemoun.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Culture Média. Dans une heure, c'est Ibrahim Malouf qui nous rejoindra. Notre info média du jour, c'est la grille des programmes de France Télévisions. Anne Holmes, directrice des programmes, sera avec nous dans un instant dans le studio d'Europe 1. Et puis Philippe Googler nous fera embarquer à bord de ces trains pas comme les autres, l'émission cultissime de France 5. Philippe Googler qui vous accompagnera tout l'été sur Europe 1 dès 10h chaque matin dans Si on partait. Comme chaque jour, vos indices. Sébastien Bordenave pour une BD mystérieuse à mi-chemin entre Charles Bukowski et un Tarantino. Il y a du Elvis, des guns, des losers et du whisky. Et Nicolas Caro pour un bon roman de plage, c'est important avant les vacances. Voilà pour le programme Culture Média, c'est parti en direct sur Europe 1 et sur Europe1.fr. Louise Bernard, bonjour.
Olivier Benkemoun, bonjour.
Au sommaire de votre journal des médias.
La une de Paris Match gêne sa rédaction. Amazon lance une nouvelle offre pour regarder le foot plus avantageuse. Moscou en colère contre un documentaire de France 2. Mediapart fait condamner l'État. Et puis les 1 an du magazine Epsilon, vous voyez plein de sujets très différents.
Beaucoup
ce matin.
De sujets. On commence par les audiences?
Bien sûr, comme chaque matin. Premier hier soir, France 2, Astrid et Raphaël, c'était une rediffusion qui a plutôt bien marché, hein, 3 millions de téléspectateurs, 15,7% de part d'audience. Deuxième, c'est TF1 avec la saison 2 de la série italienne qui continuait, 2 390 000 téléspectateurs hier soir devant le premier épisode, 12,6% de part d'audience. Là, en revanche, c'est moins bon pour Pékin Express qui signe son moins bon démarrage, 1 900 000 téléspectateurs seulement, 11,6% de part d'audience. Mais, et c'est un mais très important, M6 est leader sur la cible commerciale, et c'est ce chiffre qui intéresse M6 tous les matins, 24,7% sur les FRDA de moins de 50 ans.
Europe 1, Culture Média.
On commence ce journal des médias avec la une de Paris Match qui crée des remous au sein de la rédaction.
Oui, la Société des journalistes s'insurge contre le choix de la direction du groupe Lagardère de mettre en couverture Robert Sarrast, un cardinal ultra-conservateur. Un choix qui ne correspond pas à la ligne éditoriale du journal, c'est ce qu'écrit la SDJ dans un communiqué. Elle craint que cela nuise à l'image de Paris Match. Les journalistes indiquent ne pas contester l'intérêt du sujet à l'intérieur du journal, mais ils disent s'inquiéter que les positions les plus controversées du cardinal Robert Sarrast aient été passées sous silence. Selon la SDJ, toujours, la direction du journal a tenté de convaincre celle du groupe de ne pas mettre le cardinal en une, mais sans succès. Elle ajoute, dans ce contexte d'OPA de Vivendi sur Lagardère, nous espérons tous qu'elle ne signe pas un virage éditorial mettant en cause notre indépendance. Arnaud Lagardère et Constance Vinquet, la direction, ont donc adressé une lettre à la rédaction pour justifier cette une lettre révélée par l'AFP. Ils y défendent ce choix, disent ne pas partager les craintes évoquées. Paris Match a plusieurs fois dédié ses unes à des personnalités moins connues du grand public sans que cela ne propose un trouble chez ses lecteurs, et d'ajouter que la récente actualité autour de l'affaiblissement du pape François relance le sujet de la succession qui sera omniprésent lors du consistoire de cet été.
Dans l'actu média également, Amazon lance une nouvelle offre commerciale pour suivre tout le foot.
Oui, il y a un an, la plateforme a obtenu les droits de diffusion de 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu'en 2024. Elle avait alors proposé une offre à 12,99€ par mois en plus de l'abonnement Prime. Pour cette nouvelle saison, Amazon vient d'annoncer lancer une offre plus avantageuse à 99€ pour l'année, toujours en plus de l'abonnement Prime, 89 si l'abonnement est pris cet été. Ça fait en gros 50€ de réduction si on prend pour une année, parce que la contrepartie, c'est qu'on s'engage pour un an. Sinon, l'offre mensuelle reste valable. Amazon dit vouloir créer plus d'engagement. Elle n'a pas communiqué sur les chiffres du nombre d'abonnés ni l'audience des matchs. Elle se contente d'affirmer que les retours des abonnés sont très positifs.
Moscou est en colère contre le documentaire de Guy Lagache, Un président, l'Europe et la guerre.
Oui, car dans ce film diffusé la semaine dernière sur France 2, on y suit Emmanuel Macron de près, de très près, hein, au point d'assister à une conversation privée entre Vladimir Poutine et le président français, un appel téléphonique. C'était quelques jours avant l'invasion de la Russie en Ukraine. Guy Lagache filme depuis le bureau du conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Il suit la conversation à distance avec des collaboratrices.
Donc, je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et pas par les autorités démocratiquement élues.
Je vous ai laissé la voix originale. Hein. Vous voulez traduire, Olivier ?
Il n'est pas content, c'est tout ce que je peux vous dire.
9 minutes de conversation tendue, effectivement, qui ont été rendues publiques, ce qui a fortement déplu à Moscou. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, s'est exprimé publiquement sur le sujet. L'étiquette diplomatique ne prévoit pas de fuite unilatérale de tels enregistrements, tout en ajoutant ne pas renier, ceci dit, les propos tenus lors de cette discussion. Nous menons toujours les négociations de telle manière à ce que nous n'ayons jamais à avoir honte. Nous disons toujours ce que nous pensons, nous sommes prêts à répondre de nos paroles et expliquer notre position.
La justice condamne l'État pour sa tentative de perquisition du journal Mediapart.
Le tribunal de Nanterre a jugé hier que cette perquisition n'était ni nécessaire dans une société démocratique, ni proportionnée à l'objectif poursuivi. L'affaire remonte en fait au début de l'année 2019. Mediapart vient de publier un article sur l'affaire Macron-Benalla, avec notamment des enregistrements accablants qui révèlent qu'Alexandra Benalla a enfreint son contrôle judiciaire. Quelques jours plus tard, Mediapart voit arriver 2 procureurs et 3 policiers à la rédaction. Les 2 journalistes présents sur place s'opposent alors à la perquisition puisqu'elle n'avait pas été autorisée par un juge des libertés et de la détention. Mediapart a donc ensuite choisi d'attaquer l'État en justice et vient de gagner 1 euro symbolique. 10 000 euros au titre des frais de justice devront aussi être réglés. Le plus important pour Mediapart, c'est le symbole de cette victoire. Le journal écrit que le jugement consacre la liberté d'informer et la protection des sources et qu'il rappelle la nécessité vitale en démocratie d'une justice indépendante et d'une presse libre.
On termine par un anniversaire, celui du journaliste Pylone.
Oui, il a été lancé par d'anciens journalistes de Science et Vie, partis pour cause de désaccord avec le groupe ReWorld Media. Ensemble, ils ont lancé ce magazine d'actualité scientifique. Et un an après, il est temps de faire un premier bilan positif. Selon l'équipe du magazine, 40 000 abonnés et chaque mois, 15 000 lecteurs environ achètent Epsilon en kiosque. Des lecteurs un peu différents, en plus de la presse scientifique traditionnelle, d'après Epsilon, plus jeunes. J'ai discuté avec Hervé Poirier, rédacteur en chef du magazine, satisfait des numéros produits, satisfait aussi des retours des lecteurs.
On est toujours porté par cette aventure collective qu'on vit depuis un an et demi. On espère juste qu'elle va durer encore de très nombreuses années. On n'a pas encore atteint la rentabilité. La question clé, c'est est-ce qu'on va convaincre suffisamment de lecteurs de venir et de rester fidèles ? On pense qu'on fait un métier d'avenir et que le monde d'aujourd'hui a besoin de gens qui leur racontent des histoires fiables et sincères. En plus, avec un peu de profondeur, un peu d'amusement, un peu de décontraction, un peu de beauté. Ça fait un an qu'on travaille beaucoup, beaucoup hein, pour essayer de satisfaire cette demande. Et on est quand même agréablement surpris par ces retours d'expérience de lecteur.
Et le numéro qui vient de sortir en kiosque, celui du mois de juillet, illustre bien cette ligne éditoriale. Il raconte l'histoire du télescope JWST, car grâce à lui, pour la première fois le 12 juillet, on va pouvoir observer la seule planète habitable à portée de vue. C'est un véritable événement historique.
On a rencontré depuis quelques mois des dizaines d'astronomes qui attendent ce moment, certains depuis 50 ans. On a fait 3 mois d'enquête sur ce sujet pour faire passer cette incroyable fébrilité, cette incroyable excitation qui traverse les experts des planètes. On est un journal d'émotion, en fait. Qu'en prenant peut-être à revers cette idée que les gens ont de la science, c'est incroyablement émouvant. Elle nous montre des images absolument merveilleuses. Elle nous révèle soit des crises, soit des tensions inattendues. Elle transforme le monde pour son plus grand bien, parfois pour son plus grand mal. Mais la science est un vecteur d'émotion absolument extraordinaire. Ce n'est pas un savoir froid. C'est une culture incroyablement chaude et on pense que le lecteur gagne à avoir cette culture dans son bagage.
Hervé Poirier, rédacteur en chef d'Epsilon, déjà en kiosque pour le mois de juillet.
Une culture chaude.
Mais oui.
Mais c'est ce qu'il dit.
Mais ça donne envie.
Il y a ceux qui regardent le monde avec un télescope, il y a ceux qui regardent au microscope les audiences et la télévision et la vie des médias. Louise Bernard, merci. Toutes ces infos sont à retrouver dans la newsletter Média. Inscription gratuite, on le rappelle tous les jours sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias.
À demain avec mon microscope.
Dans un instant, et votre micro tout court, dans un instant sur Europe 1, l'infomédia du jour, on revient en détail sur les annonces des programmes de France Télé, des nouveautés, des changements de cases, des disparitions. On fera également le bilan de la saison avec Anne Holmes, la directrice des programmes. Elle sera dans le studio d'Europe 1. À tout de suite. 9h.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Olivier Benkemoun.
Ça bouge à France Télévisions et c'est même du chamboule tout. C'était hier, lors de la conférence de presse, que la présidente du groupe public, Delphine Lernotte, a présenté sa stratégie. Un discours tourné vers l'avenir de la télé avec une grande ambition pour cette plateforme, France.tv, en faire le plus grand catalogue de contenu en accès libre et 100% gratuit en France. Une conférence également pour annoncer la grille de rentrée et ses nouveaux programmes. Beaucoup de changements, mais sans réel mercato. Changements essentiellement organisés autour des animatrices, animateurs et journalistes du groupe. On va détailler tout cela avec celle qui a orchestré ces mutations, la toute nouvelle directrice des programmes de France Télévisions. Et elle est notre invitée ce matin sur Europe 1. Bonjour Anne Almès.
Bonjour.
Vous aviez deux grands chantiers à mener, France 2 et France 3. Le plus important, c'est celui de France 3. Et le plus symbolique, vous connaissez ça, hein, les chiffres
et les lettres.
Évidemment, programme symbolique qui va disparaître la semaine des chiffres et des lettres. Je crois que c'est le plus ancien, hein, créé en 65.
Oui, c'est le plus ancien, mais j'aime pas ce mot disparaître.
Non.
Parce qu'il va pas disparaître, il va juste être transféré de place et il va être le week-end. Mais j'ai l'impression que ça fait comme si c'était un événement, comme si ça disparaissait.
Mais c'est une révolution.
Ben vous savez, quand il est passé de France 2 à France 3, ça a été déjà une révolution et tout s'est bien passé. Et il y avait une cohérence dans notre stratégie de le passer le week-end. On a le week-end une offre de proximité. Comme vous le savez, Michel Drucker passe le dimanche sur France 3. Et donc, dans l'offre de proximité, on pensait que des chiffres et des lettres trouvaient une meilleure place et étaient mieux exposés le dimanche samedi.
Ça fait partie des habitudes. Des vraies habitudes des Français. Donc, vous allez casser les habitudes, vous vous rendez compte ?
Non, on ne va pas casser les habitudes, on va renouveler l'offre. Et en fait, c'est la vie de chaque programme de télévision de bouger de case. On ne l'arrête pas. Là, si on l'avait arrêté, on aurait cassé des habitudes.
Bien sûr, mais ça veut dire que c'est le plus vieux jeu du PAF. Ça veut dire que c'est devenu un peu ringard. Ça a plus sa place, ça a plus son public. Je vous pose vraiment la question très naïvement.
Mais pas du tout. Pourquoi le passer le week-end où il y a encore plus de monde dans la télé qu'en semaine, on trouve ça ringard? Au contraire, moi, je trouve qu'il est mieux exposé le week-end et le total télé plus fort.
Autre changement radical, la disparition de l'info nationale, plus de 19-20, ni de 12-13 d'ailleurs. C'est un chantier qui va être piloté par votre collègue, Laurent Guimier, patron de l'info, mais ça aussi c'est un changement radical.
Alors, je suis désolée, mais l'info ne fait pas partie de mon périmètre, donc je ne peux pas commenter, mais en même temps, ça bouge à France Télévisions, c'est ça l'info.
Michel Drucker, vous l'avez dit, son Vivement Dimanche change de chaîne, il passe sur France 3, toujours le dimanche, c'est important.
Toujours le dimanche.
C'est un changement d'habitude, là encore, qui était rendu nécessaire. Pour quelles raisons ?
La refonte des grilles du week-end était importante. C'était notre grand chantier. Et on trouvait, avec l'accord de Michel de toute façon, que son émission, le dimanche... On a changé d'horaire aussi, c'est ça qu'il faut voir. C'est pas tellement changer de chaîne, c'est qu'on a changé d'horaire. Il est à 13h30, prendre le café avec Michel Drucker, avec son canapé rouge, nous semblait une bonne idée pour le mettre, encore une fois, sur le Total Télé qui est fort, et tout ça avec son accord, évidemment.
La durée de l'émission sera similaire à celle qu'il faisait France 2. C'est la même chose. C'est le même Michel Drucker, c'est le même canapé, mais ça change de chaîne et d'horaire. Pourquoi, au fond, tous ces changements pour France 3 ?
Ben, est-ce que vous voulez ronronner et donner aux téléspectateurs la même chose chaque année à la même heure ? Je ne pense pas que ce soit notre mission aussi. C'est quand même chaque année de créer une petite surprise, même si on garde nos fondamentaux comme vous me faites remarquer.
L'arrêt du feuilleton quotidien Plus belle la vie, qui sera remplacé en janvier 2023 par une quotidienne consacrée au JO 2024, présentée par Carole Gessler. Ça fait partie aussi des changements. Bon, déjà, ça a été un psychodrame, l'arrêt de Plus belle la vie. Ce choix de remplacer par un programme qui sera consacré au sport.
En fait, bon, l'arrêt Plus belle la vie, on le sait que ça a été des habitudes, 18 ans de feuilleton.
J'aimerais bien savoir combien vous avez reçu de mails et de courriers à ce propos, d'ailleurs.
Bah, vous savez, c'est normal. On a créé un lien avec le public à un moment. Mais encore une fois, je reviens sur la vie de la télé. La vie de la télé, c'est de mettre des nouvelles émissions à l'antenne et d'arrêter les anciennes émissions pour avoir de la place pour mettre des nouvelles émissions. Donc après 18 ans, bon, effectivement, ça va être difficile. Le projet de France Télévisions était on a donc les JO et de mettre en avant les JO et surtout et d'abord la France qui va recevoir les JO. Donc il nous semblait complètement naturel d'accompagner cet événement avec Carole qui sait si bien le faire.
Oui. Beaucoup de changements à France 3, mais ça bouge aussi sur France 2. Un retour d'abord a fait l'effet d'une petite surprise, celui de Frédéric Lopez dans une émission qui remplacera vivement dimanche. Ça va s'appeler ? Cette émission, cette nouvelle émission
un dimanche à la campagne.
Il paraît, non, mais je comprends votre hésitation. Il paraît que c'est un titre provisoire.
Ben c'est un titre provisoire parce qu'un dimanche à la campagne, vous le savez, c'est un film.
Oui.
Sinon, ça sera dimanche à la campagne. En tous les cas, vous avez compris le principe. Ben, on partira à la campagne avec Frédéric Lopez.
Après, c'est du déjà vu, non ? On est déjà parti à la campagne. On va se retrouver dans une maison, ça sera cosy, il y aura des copains, des amis, etc.
Alors, pas du tout. Le concept est en cours d'évolution. Nous, ce qu'on a été chercher, c'est le talent de Frédéric, d'abord. Il n'était plus à l'antenne et il nous manquait. Alors, Frédéric ne veut pas qu'on dise son retour à l'antenne, mais il continue, donc voilà. Et donc, on sait qu'il a cette qualité de faire parler des gens, d'être en harmonie avec la nature, avec les gens qu'il reçoit, etc. Et c'est pas du tout... on reprend pas la parenthèse inattendue. On s'inspire du concept pour créer une nouvelle émission.
C'était diffusé en deuxième partie de soirée.
Tout à fait.
Aujourd'hui, Frédéric Lopez va trouver les dimanches, les joies du dimanche après-midi. Ça correspond mieux au public, au programme ?
Ce qu'on pense, c'est que c'est adapté parce que justement, le dimanche à la campagne, tout le monde en rêve, en fait. Et c'est un moment de plaisir et de détente pour le téléspectateur. Donc, on pensait que c'était effectivement sa meilleure place.
Changement d'incarnation pour la Grande Librairie. François Bunel a passé la main à Augustin Trapenard sur France 5. C'était d'ailleurs hier soir.
La 500e, oui.
J'aimerais maintenant vous présenter le nouveau visage de la Grande Librairie. Il sera là à partir du 7 septembre. J'ai choisi pour me succéder aux commandes de cette émission quelqu'un qui fait partie de ceux qui se battent pour le livre, la lecture, la littérature et les écrivains. Quelqu'un qui défendra les libraires et les librairies, comme je l'ai toujours fait, c'est précisément parce que son exigence, son engagement et son amour des livres sont sincères que je suis ravi et fier de lui passer le flambeau ce soir. Mesdames, messieurs, merci d'accueillir comme il se doit Augustin Trapenard.
Trapenard, ancien de Canal+, préféré un visage d'ailleurs de la chaîne, la journaliste Leïla Kadour, qui présente les éditions du Trésor de France 2 le week-end. Qu'est-ce qui vous a fait préférer Augustin Trapenard ?
Alors, je pense qu'on ne dit pas préféré. On a choisi, toute l'équipe a choisi, et avec François, qui pourrait lui succéder. On n'a pas préféré quelqu'un à quelqu'un d'autre.
En tout cas, c'est Augustin Trapenard.
En tous les cas, c'est Augustin Trapenard.
Qu'on va retrouver. Restez avec nous. Anne Holmes, on continue à parler des nouveautés de rentrée chez France Télé. On fera également le bilan de la saison qui s'achève. Culture Média revient sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média.
Olivier Benkemoun.
De retour dans Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Googler. On parle de la 12e saison des Trains pas comme les autres. 12 ans déjà, vous me le disiez tout à l'heure. Mais c'est une émission qui existe depuis 1987 sur Antenne 2.
Absolument.
C'est culte. C'est
cultissime. Cultissime,
mais bien sûr. Puis France 2. Mais la grande différence, et c'est vrai que pour certains, on a encore ça dans la tête, c'était des documentaires.
Ah oui.
C'était pas incarné.
Non,
ça se faisait pas d'ailleurs.
Ça se faisait pas trop. Le ton était assez différent. C'était très sérieux. Il y avait énormément de commentaires, peu de rencontres, beaucoup d'images. C'était très très écrit. Il y avait pas de présentateur. Mais ça a quand même marqué l'histoire parce que c'est un des premiers documentaires qui était comme ça. Une série avec une thématique autour du train régulière et avec un vecteur, le train qu'on retrouvait régulièrement. Et l'idée à l'époque était assez originale.
C'est marrant à quel point on peut détester le train ici et adorer.
Mais vous avez tort de le détester, je vous l'ai dit. Allez, venez faire un tour avec moi en Namibie, prendre le train. Vous savez quel est le retard du train en Namibie en moyenne ? Hein ? Un jour et demi.
Voilà. Et demi.
Une fois que vous aurez fait un petit stage en Namibie, vous trouverez les trains français formidables.
C'est le record.
Non, vous savez, le pire retard que j'ai eu, c'est au Canada. Parce que là-bas, les trains de voyageurs n'ont pas priorité sur les trains de fret. Donc ils doivent se mettre sur le côté quand il y a un train de fret. Et le pire retard que j'ai eu, c'est 3 jours et demi. 3 jours et demi de retard, le train.
C'est pas mal. Vous avez une série qui va démarrer aussi, un documentaire qui va démarrer en Sibérie. Bon, les trains sibériens, il n'y a pas une gare tous les kilomètres. Hein,
non, il n'y a pas une gare tous les kilomètres. Il y a une gare, des fois, c'est 7, 8, 9 heures de train entre deux gares. Mais alors ça, c'est une aventure extraordinaire. Bon, c'était un grand rêve d'aller dans le transsibérien, dans la neige et dans le froid. Et ça, c'est une vraie aventure.
Le premier épisode ce soir, c'est donc au Guatemala. Oui. Il y a encore une chose à raconter. À un moment, vous vous retrouvez près de la frontière avec le Salvador. Et là, il y a de quoi être surpris, puisque toujours pas de train de voyageurs, on le disait tout à l'heure. C'est un grand pays de rails, mais pas de train. Et en revanche, il y a une occupation des rails assez inattendue, tirée par un cheval. Et qui, vous allez rencontrer des personnages qui ramènent du Salvador vers le Guatemala de l'eau potable.
Je crois qu'on a déraillé.
Qu'est-ce qui se passe ?
Comme cette voie est laissée à l'abandon, eh bien parfois les rails bougent et se resserrent. Et donc, nos push-carros ne sont plus adaptés à la largeur des rails. Alors ça coince.
Et donc qu'est-ce qu'il faut faire alors ?
Il suffit de soulever la planche et de la déplacer un peu plus loin sur les rails. Viens, on va pousser.
Ah, c'est pas simple, hein. Je comprends pourquoi ça s'appelle des push-carros, parce qu'il faut pousser tout le temps, en fait. Ah, oh mon Dieu, j'ai cassé le push-carro.
Push-carro, j'ai cassé le push-carro, j'espère que non.
Si, j'ai un peu cassé le push-carro. Mais en fait, c'est une histoire folle. Il y a une voie ferrée abandonnée à la frontière entre le Guatemala et le Salvador. Une frontière surveillée.
Hein, on les voit, les
militaires. Il y a du militaire, il y a du fusil. Hein. Et du côté du Guatemala, l'eau dans le village n'est pas potable. Du côté du Salvador, elle est potable. Donc ils ont désigné un petit monsieur qui prend un cheval, parce que comme la voie est inutilisée, on va essayer d'en faire quelque chose. Il attache une sorte de planche avec des roues derrière, adaptée comme il peut au rail. Et avec son cheval, il va chercher de l'eau potable dans le village du Salvador. Et puis il revient avec ses bidons. Mais comme vous l'avez entendu, la voie, elle est vieille, elle a bougé. Donc des fois, elle se resserre. Et du coup, ça coince les roues. Donc il faut soulever la charrette et les bidons d'eau, et puis la poser un peu plus loin, c'est long. Hein. C'est très long,
mais c'est très très important. On se rend bien compte dans le documentaire à quel point, au fond, cette voie ferrée est indispensable pour les populations qui sont là, parce qu'il n'y a pas d'eau, encore une fois.
Parce qu'il n'y a pas d'eau. Ouais. Et c'est à la fois abandonné et en même temps vital. Ça me rappelle un petit train que j'avais vu en Bolivie. C'était une voie abandonnée, mais les villages n'étaient... C'était en haut des Andes. Les villages n'étaient desservis que par la voie ferrée. Si vous vouliez quitter le village, c'était à pied ou en train. Et ils ont failli supprimer le train. Alors les habitants ont dit, on va prendre un bus, on va lui mettre des roues de train, un vieux bus Mercedes des années 80, et ce sera notre train et on va le garder. Et ce vieux bus tout brinque-ballant, il est devenu le lien vital des villages. Et il y a des moments forts comme ça.
Oui. Donc ce soir, le Guatemala, ensuite ce sera l'Italie.
Oui, absolument. L'Italie, nous irons aussi en République dominicaine, nous irons en Grèce, nous irons en Norvège. Là, je rentre à peine du tournage. En Norvège, on va découvrir le train le plus au nord du monde. Mmh. Il est à 1000 km seulement du pôle Nord.
Il est chauffé ?
Il n'est pas chauffé.
C'est une question bête, peut-être. Ça vous semble idiot.
Il n'est pas chauffé. Il est un peu pas comme les autres, hein, je vous préviens.
C'est le principe de l'émission, normalement.
Mais c'est sur l'île du Spitzberg. C'est un endroit incroyable.
Qu'est-ce qu'on aime vous raconter quand vous racontez comme ça ? Il se trouve que Philippe Googler, on vous retrouve tout cet été sur Europe 1 avec cette façon magnifique de raconter les choses.
En Géorgie, du côté des montagnes du Caucase, on est géographiquement encore en Europe et pourtant un peu au bout du monde. Quand on parle de la Californie, on pense à Hollywood, Los Angeles, la Silicon Valley. Une des scènes les plus troublantes à laquelle j'ai assisté en Inde, c'était au bord du Gange, à Varanasi. Pour les hindous, le Gange est un dieu. En Argentine, il y a un des trains les plus spectaculaires de la planète. Il monte très très haut. J'étais au nord-est du Québec, dans une région complètement glacée pendant tout l'hiver, où les températures peuvent descendre fréquemment à moins 30. Une de mes îles préférées aux Philippines, c'est l'île de Coron. Une île, mais surtout des falaises vertigineuses qui surgissent de l'eau turquoise, de la jungle luxuriante, de la mangrove, dans laquelle flottent de ci de là des bois morts. Mais pas si morts que ça.
Et pas si mort. Qu'est-ce que vous avez une façon de raconter. J'adore Philippe Googler.
C'est très gentil.
Globetrotter, cet été, donc ça va ressembler à quoi ce matin, tous les matins entre 10h30 et 12h. Ça va s'appeler Si on partait.
Et ça va s'appeler Si on partait. Et il y aura beaucoup d'histoires comme celle-là. On va raconter 1000 histoires. Et puis chaque jour un pays différent. Et puis je serai avec toute ma bande de joyeux baroudeurs qui ont baroudé toute l'année, qui viennent avec leurs sacs remplis d'aventures. Ils sont un peu plus cabossés, un peu plus fatigués, mais très marrants. On aura notre globe croqueuse qui s'appelle Nathalie Corré, qui aura goûté des tas de trucs improbables que personne ne veut goûter, qui va nous raconter la Gazette insolite des pays. Il y aura Christophe Mercier, lui s'occupe de l'hygiène des pays.
C'est très important.
Mais c'est un super sujet.
Bien sûr.
Il va vous raconter comment on revient en bonne santé du Brésil. Et par exemple, il m'a raconté que le Brésil est le champion du monde des bains de bouche. Donc si vous voulez le baiser le plus frais du monde, allez embrasser un ou une brésilienne.
Mais j'y manquerai pas. Je vous promets, je n'y manquerai pas.
Et puis il y aura Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet aussi, avec tous ces bons plans.
Voilà, j'ajoute que vous avez signé un livre qui s'appelle Des trains pas comme les autres.
Oui,
alors ça alors.
C'est une bonne idée.
Ouais, c'est une bonne idée. Et que ce soir, le numéro consacré au Guatemala, qui est drôle, qui est passionnant, est à 21h. Merci.
Sur Philippe. France 5.
Bien, évidemment, c'est sur France 5. Culture Média sur Europe 1, ça continue. Après les infos de 10h, notre invité est le trompettiste-compositeur Ibrahim Malouf, dont l'actualité est chargée cet été. Pas un festival près de chez vous sans Ibrahim Malouf. Dans les indispensables de la lecture, beaucoup de lecture, Sébastien Bordenave pour la BD et Nicolas Caro pour les livres à emporter sur la plage ou dans les trains ou dans les avions. En tout cas, des indispensables pour cet été. Enfin, on retrouvera l'humoriste et imitateur Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. A tout de suite sur Europe 1.